Good Evening Business, l'invité.
Et c'est donc l'ancien député Bruno Bonnel qui est avec nous à 18h19 sur BFM Business. Bonsoir Bruno Bonnel.
Bonsoir.
Bonsoir. Secrétaire général pour l'investissement chargé de France 2030. C'était quoi l'ancien nom de France 2030 déjà?
Ah, il y a pas d'ancien nom de France 2030.
Il y a pas d'ancien nom.
Non, ça a toujours été ça.
France alors, Relance, non?
C'est alors on appelait ça France Relance et on croit que c'est la suite. C'est à la fois la suite, mais c'est aussi une rupture.
Vous avez été auditionné ce matin par le Sénat, par la commission des affaires économiques pour détailler votre mission parce que qu'est-ce qu'on dit? Vous êtes un faiseur de roi, quelque part. Vous avez la charge de distribuer quelques 50 et quelques milliards d'euros pour façonner, parce qu'il s'agit de ça, la France de 2030. 2030, c'est dans 8 ans. Déjà en 2030, la France aura en partie changé de visage. C'est ça que ça veut dire, Bruno Bonnel?
Mais on le voit tous les jours, et l'accélération qu'on peut constater, c'est à la fois une accélération dans les mentalités, dans les technologies. Alors, bien sûr que 2030, c'est un symbole. Si on avait dit la France de 2100, on aurait dit « Oh là là, c'est bien trop loin ». Si on avait dit la France de 2027, on aurait dit « C'est électoraliste ». Je trouve que le point 2030, il est intéressant parce que c'est dans une dizaine d'années. Et c'est suffisant. Si vous réfléchissez à la vie qu'on avait il y a 10 ans.
C'est vrai.
Si vous réfléchissez, vous avez vu les bouleversements. Même, je vais vous dire, avant la Covid, c'était jamais qu'il y a 3 ans. Et c'était une vie différente. Donc, il faut penser effectivement que les bouleversements.
Il a fallu le Covid et une guerre en Ukraine pour voir tous ces bouleversements s'accélérer. Au passage, c'est pas très réjouissant ce que vous
en
nous
tout
dites.
En tout cas, il a fallu des événements comme ça pour faire comprendre à la planète que si on se bougeait pas, et notamment en France, si on se bougeait pas et qu'on remettait pas une perspective nouvelle à ce qu'on faisait, eh ben oui, c'était pas facile.
Alors, France 2030, j'allais dire c'est une enveloppe. Non, c'est une philosophie. C'est plus qu'une enveloppe. 54 milliards. Au passage, vous dites, on a besoin des collectivités locales. On compte sur les collectivités locales et les entreprises pour faire un effet de levier x4.
Oui.
Et potentiellement aller chercher 200 milliards d'euros d'investissement, potentiellement.
Mais c'est une réalité. On a engagé à aujourd'hui, ça fait un an que je suis en poste, on a engagé 7,5 milliards d'euros et on est déjà dans un effet de levier qui est x4. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la réalité, à la fois les investissements privés, les investissements régionaux et territoriaux, les investissements d'accompagnement de fonds représentent une somme importante. Parce que France 2030,
vous avez la certitude qu'on pourra investir 200 milliards d'euros dans la France de demain?
En tout cas, je ne sais pas si j'en ai la certitude, mais l'objectif, c'est à chaque fois que France 2030 serve de dérisqueur, baisser le risque pour les investissements privés, et d'accélérateur dans des domaines qui finalement sont un peu exploratoires. Quand vous parlez du quantique, aujourd'hui, le TRI sur le quantique, on le connaît pas. On ne sait pas si c'est demain ou dans 10 ans.
Ça veut dire que votre job aujourd'hui, c'est de faire la tournée des régions, pas forcément pour distribuer de l'argent par région. Apparemment, les régions, au début, vous voyez ça comme ça, si j'ai bien compris. On se disait, chaque région veut tant. Donc, vous avez dit, non, ça ne se passe pas comme ça.
Ah non, ça ne se passe surtout pas comme ça.
Non,
on ne divise pas le gâteau en 18 et on ne dit pas ça va y aller. Parce que vous savez, vous avez les régions et les régions académiques.
C'est ça.
On travaille sur la formation, c'est un peu plus subtil.
Non, mais il a quand même fallu faire cette mise au point. Quand même.
Alors oui, il y a eu deux choses. Il y a d'abord, il y a des budgets qui sont ce qu'on appelle France 2030 régionalisés. Ils sont beaucoup plus modestes. C'est 500 millions en tout sur le territoire. Où là, c'est un pour un avec la région. Et là, c'est décidé en région. C'est-à-dire que ça remonte même pas chez nous. C'est-à-dire que c'est fait en région. Et puis, il y a tout le support qu'on peut apporter à la région et notamment également aux organisations de ce qu'on appelle l'État décentralisé, les préfectures de région, où dans lesquelles on dit... Et s'il y a des projets intéressants, on va utiliser l'effet de levier du national pour pouvoir justement donner les bons moyens. Et moi, ce que j'ai découvert dans toutes mes pérégrinations, c'est que la France a effectivement un incroyable talent. Faut qu'on arrête la musique. Non, mais faut qu'on arrête la petite musique de la France est en retard. Dans plein de domaines, la France est au par, voire en avance. Et dans des domaines compliqués, la micromécanique à Besançon, très en avance. Le spatial, dans la zone de Toulouse, en avance. Le médical, à peu près partout. Pour être objectif, en France, on a des équipes de santé qui sont incroyables. Et à force de dire un mantra sur lequel on est, bah non, mais on en avance, c'est pas assez d'argent, ça avance pas. Mais je dis, mais arrêtez de parler comme des livres. Allez sur le terrain, rencontrez ces personnes et vous allez être bluffé.
Formation, santé, agriculture, automobile, espace. Voilà quelques-uns des domaines dans lesquels vous voulez distribuer cet argent. Question sur la formation, parce que rien que ça, mais c'est un chantier colossal.
Eh oui, c'est 3 milliards d'euros.
3 milliards d'euros, mais ne serait-ce que pour former combien de personnes qui vont perdre leur job dans les prochaines années? Ça, c'est un vrai sujet.
C'est l'inverse. C'est 1 million de nouvelles formations, ils s'appellent les compétences et métiers d'avenir, par rapport à ce qu'on forme aujourd'hui, en plus de ce qu'on forme aujourd'hui. Mais là-dedans, vous avez plein d'entreprises qui se mettent à faire des écoles.
Ouais.
Vous avez des écoles qui disent on veut augmenter nos capacités de promotion. Vous avez des nouvelles filières qui sont en train de développer et pas les filières pas que techno. La forêt, l'agriculture, la formation à des soins particuliers, la bioproduction. Donc là on est dans une espèce de domaine dans lesquels on s'aperçoit que si on pourra mettre autant de milliards qu'on veut, si on n'a pas les femmes et les hommes pour faire,
c'est ça.
Ça marchera pas.
Là, quand même, je vous dis, est-ce qu'on aura suffisamment d'argent? Parce que personne n'est capable de prédire aujourd'hui si ce sont 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions de Français qui vont perdre leur job dans les prochaines années du fait de l'obsolescence de ce job. Voilà. Ce que certains économistes appellent la grande transhumance des prochaines années. Est-ce que vous dites 3 milliards, ça suffit dans la formation? Il faudra beaucoup plus d'argent. Ne serait-ce que pour pouvoir maintenir en emploi peut-être des centaines ou des millions de personnes en France, finalement. C'est ça.
Écoutez, moi, je vais vous répondre par une histoire industrielle. Hein. Il y avait 1 million de personnes qui travaillaient dans l'hypomobilité, c'est-à-dire les chevaux, au début du 20e siècle. À la fin des années 60, il n'y en avait plus que 100 000. On a perdu 900 000 emplois. Mmh. En parallèle, se sont développés plus de 4 millions d'emplois dans l'automobile. C'est la même chose. Il y a des emplois nouveaux qui vont être créés et nous faisons beaucoup de ponts. On valorise notamment la transition. Je vous écoutais sur vos sujets de métiers en tension tout à l'heure. Ouais. Mais sur les métiers en tension, il faut à la fois revaloriser des métiers par la valorisation des acquis d'expérience. Il faut donner la possibilité à des gens qui sont en poste d'évoluer vers des nouveaux métiers. Mmh. Et puis avec le groupe Renault, par exemple, nous sommes en train d'accompagner la transformation de 10 000 personnes qui travaillent dans le thermique aujourd'hui dans l'électrique. Oui. Donc tout ça s'anticipe. C'est une espèce de programmation qui est en parallèle. Hein. On n'est pas dans une espèce de tunnel où on forme d'abord les gens puis on crée les emplois. Tout ça marche en parallèle et moi je suis assez optimiste sur le fait qu'on va atteindre l'objectif.
Faire bouger de l'argent, c'est des projets, c'est de l'argent, c'est aussi évoluer sur les mentalités. On va parler tout à l'heure avec nos éditorialistes de tout ce qui se joue autour du nucléaire, des éoliennes. Là aussi c'est des démarches administratives à élaguer, là aussi c'est des mentalités à faire évoluer. Ça aussi ça fait partie de l'équation pour vous, on imagine.
Évidemment, et c'est important également de voir que notamment France Nation Verte, La programmation écologique qui est en place sous l'autorité de la Première Ministre, dont je dépends aussi, est importante parce qu'il y a tout un aspect réglementaire, un aspect voire législatif, il va falloir modifier. Mais effectivement...
C'est un sacré obstacle, ça fait partie de votre équation aussi. Quoi.
Ben oui, mais ça fait partie des... Vous savez, quand on veut aller à la montagne, il faut manger chaque gravier. Hein, donc il faut comme ça y aller d'une façon déterminée. Je crois ce qu'il faut comprendre, vous l'avez dit, et merci parce que c'est une très bonne phrase, vous avez dit France 2030, c'est quelque part une espèce de philosophie.
Oui,
c'est la conviction qu'on est dans un pays en métamorphose et qu'on va réussir cette métamorphose. Et vous savez, dans une métamorphose, ben, à l'intérieur de la chenille, il y a des nouvelles cellules de papillons qui arrivent et les autres qui l'attaquent. Ben oui, il y a cet équilibre entre la multiplication des cellules de demain et qui sont attaquées par celles d'hier.
Et ben voilà, 54 milliards donc à dépenser. Il y a déjà une grosse dizaine qui ont été dépensées, je crois.
Voilà, 7,5 milliards déjà engagés, 810 projets aidés. Et donc ça fait à peu près 1300 bénéficiaires parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont en consortium.
Et vous
donc
passez...
il y a aujourd'hui beaucoup, beaucoup de gens qui sont déjà dans la France 2030.
Et vous passez vos journées, vos soirées sur les routes de France, partout, aller à la rencontre des entrepreneurs, partout.
Et puis animer quand même une équipe de 45 personnes.
Et 45
je salue
personnes,
parce qu'ils bossent quand même comme des brutes aussi pour que ça marche.
Vaste sujet, merci beaucoup Bruno Bonnel.
Merci à vous.
Nous tenons au courant des étapes, des projets qui seront retenus les uns après les autres. Bien sûr, le secrétaire général pour l'investissement chargé de France 2030. Merci beaucoup Bruno Bonnel.
Merci à vous.
De nous voir ce soir sur BFM Business. 18h27, on marque une pause, les grands titres dans un instant, et puis le grand débat. Jusqu'à 19h, on va parler de la fête qui va causer dans une demi-heure. On suivra ça, bien sûr, en direct sur BFM Business. Et puis beaucoup d'énergie, je vous le disais, le projet de loi d'accélération sur le nucléaire qui est passé en Conseil des ministres. Celui sur les renouvelables qui arrive au Sénat, où il est attendu de pied ferme. On voit tout ça jusqu'à 19h sur BFM. À tout de suite.
Good evening business. Le débat.
Allez, 18h30 sur BFM Business, c'est l'heure du grand débat, comme tous les soirs, avec nos invités. Didier Julien est avec nous ce soir. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Bienvenue, président de Commodities and Resources. Léonidas Calogiropoulos est avec nous. Bonsoir Léonidas.
Bonsoir.
Président de Médiation et Arguments et d'Entrepreneurs pour la République. Et puis Sébastien Lay. Bonsoir Sébastien. Économiste, directeur de recherche à l'Institut Thomas More. Les marchés, on le disait, dans leurs petits chaussons, puisque la réserve fédérale américaine va parler dans une demi-heure. On va suivre ça bien sûr. Oh, la hausse des taux attendue de 75 points de base. On va voir ce qu'elle nous dit, on va voir surtout les commentaires. Léonidas, je vous cède dithyrambique.
Dithyrambique sur quel
Sur l'action des banques centrales, non, c'est une
bonne. Ah, d'accord. Là, j'ai un moment de doute.
Non, mais on va en parler aussi avec Sébastien. Cette course en avant des banques centrales continue, quoi qu'on en dise.
Oui, alors je pense quand même qu'on doit avoir un regard un peu différent sur la position des banques centrales, la banque centrale américaine et celle des banques centrales européennes, simplement parce qu'on n'a pas la même inflation.
C'est pas la même inflation.
Et en particulier parce que les États-Unis ont leurs propres ressources énergétiques. Ils ne sont pas sous un choc des prix de l'énergie. Comme nous le subissons aujourd'hui, nous le subissons, ce qui a bien entendu un effet sur nos prix, ce qui a aussi un effet sur notre croissance. Et donc, qu'est-ce que l'on fait en principe quand on relève les taux de base ? ce que l'on fait, c'est qu'on essaie de ralentir l'économie. Et aucun observateur normalement constitué ne peut se dire qu'on a absolument besoin d'un effort particulier pour ralentir notre économie européenne qui est en train de souffrir, et on voit toutes nos entreprises en train d'essayer de se démener avec des prix de l'énergie qui explosent. Donc les prix de l'énergie sont en train de faire à notre économie européenne et nationale ce que les augmentations de taux essayent de faire à l'économie américaine. Donc on n'a pas besoin des mêmes remèdes pour lutter contre l'inflation aux États-Unis, pour lutter contre l'inflation en France et en Europe. Donc je pense qu'on peut comprendre la politique de la Fed, mais qu'il ne faut pas que nos banques centrales européennes suivent le même modèle et s'alignent sur la
position de la Fed. On a l'impression que la BCE court après la Fed depuis maintenant des mois, Sébastien. Comment est-ce que vous regardez cette course à l'échalote finalement? C'est un petit peu de ça qu'il s'agit finalement.
Oui, mais je crois que la trajectoire des taux d'intérêt aux États-Unis, en tout cas jusqu'en mars, elle est à peu près connue. Là, si aujourd'hui on a 0,75% d'augmentation, sur les taux directeurs, on va être à 4%. Ils ont déjà téléguidé qu'on irait jusqu'à 5%. Ça veut dire qu'on va avoir, on parle beaucoup de pivot. En fait, c'est un ralentissement de la hausse. C'est-à-dire qu'après la réunion d'aujourd'hui, il reste deux réunions, décembre, février, ça veut dire qu'il va augmenter à chaque fois de 0,5%. Donc l'essentiel des hausses, ça aurait été quand même en 2022. Et après, on voit déjà aux États-Unis, quand on écoute les médias financiers américains, tout le monde parle déjà du fameux pivot.
Oui.
Et le pivot, c'est pas juste le ralentissement de la hausse, c'est de savoir en février, en mars, est-ce qu'on s'arrête vraiment? Est-ce qu'on a réussi à juguler l'inflation ou pas? Est-ce qu'on fait une pause? Et est-ce que le pivot, à un moment donné, au cours de l'année 2023, si vraiment on arrive à enrayer l'inflation, mais qu'on a déjà un début de récession, si c'est pas un pivot même vers à nouveau un QI, c'est-à-dire rebaisser peut-être les taux dans le second semestre 2023. Il y a beaucoup de gens qui évoquent cette hypothèse aux États-Unis.
Ah, vous en êtes là, vous.
On en est déjà là.
L'étape d'après, on va rebaisser les taux, finalement.
Non, mais que ce soit de l'ajustement fin. L'idée, c'est quand même. C'est une guerre de mouvement. Il ne faut effectivement pas être obibulé. Mais en revanche, je pense que le premier élément nécessaire, c'est pas se tromper de diagnostic sur la nature de l'inflation qu'on est en train de subir. Et je crains que pour le moment, ce que l'on entend des banques centrales européenne, c'est effectivement un alignement sur la Fed, or ce n'est pas du tout la même situation que nous vivons.
Didier Julienne.
Oui, vous savez que moi, mon prisme, ce sont toutes les commodities.
Oui, bien sûr, on va en parler largement.
Et mon diagnostic est un mariage des deux. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde aux États-Unis, on s'aperçoit donc naturellement l'inflation est liée à tout ce qui a eu lieu au moment du Covid. Hausse des coûts de transport, par exemple, qui a un effet inflationniste incroyable. Deuxièmement, hausse des matières premières globales sur toute la planète après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et puis, troisièmement, hausse de l'activité aux États-Unis depuis que Joe Biden a décidé de rapatrier avec l'IRA, son programme IRA, de rapatrier en local, si je puis dire, beaucoup d'activités. Donc, en quelque sorte, une fin entre pointillés de la globalisation. Et ça, c'est aussi inflationniste. Or, on s'aperçoit de quoi? Que premièrement, il y a une baisse déjà bien avancé des coûts de transport. Donc ça, c'est fini. J'ai fait un petit calcul avant de venir chez vous pour vous dire que comparé au 24 février 2022, donc le jour où la Russie
invasion
envahit l'Ukraine, le TTF, donc le prix du gaz, est 4% en dessous. Le blé, 8% en dessous, les prix du 24 février 2022. Le cuivre, 22%. L'aluminium, 33%. L'or, 13%. En dessous. Donc, on a déjà un fort effet déflationniste des matières premières. Et ça pour tout le monde, États-Unis comme l'Europe. Le problème que nous avons en Europe, ou plutôt, ce n'est pas un problème, la différence que nous avons en Europe par rapport aux États-Unis, c'est on a le même problème sur les coûts de transport, mais ça a baissé. On a eu le même problème sur les matières premières, mais ça a baissé. Et la grande différence, c'est que 70% de l'inflation provient du coût des salaires, du coût de la force de travail. Et aux États-Unis, il y a un chômage qui est bien moins élevé que chez nous, tout simplement parce qu'ils ont commencé à relocaliser ce que nous n'avons pas fait. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce découplage dans le diagnostic entre les États-Unis qui resteront un peu plus inflationnistes que nous et nous qui devrions être moins inflationnistes que les États-Unis.
Sébastien,
je voudrais rebondir sur les États-Unis qui resteront un peu plus inflationnistes. C'est vrai, quand on lit entre les lignes tout ce que dit la Fed, à aucun moment l'objectif n'est de revenir à l'ancienne cible de 2%. Soyons honnêtes, quand ils vont revenir à 4 ou 5% d'inflation aux États-Unis, ils vont crier victoire et vont dire nous avons fait le travail. Et c'est pour ça que je vous dis que certaines personnes se disent quelle est la prochaine étape finalement, si au prix de ce combat contre l'inflation, on est en récession. Est-ce qu'il ne faut pas relancer la machine au second semestre 2023? Mais ça, c'est très important. Je crois que la victoire contre l'inflation, c'est aux États-Unis revenir entre 4 et 5 %, ouais. France entre 3 et 4 %, mais personne ne dit qu'on va revenir entre 1 et 2 % le rythme de croisière
pourtant,
de la décennie précédente.
C'est pourtant le mandat de la Fed, pourtant, à l'origine.
Ça va, le mandat de la Fed.
Pas bon pour Joe Biden, tout ça, qui va le payer dans les urnes la semaine prochaine, là, lors des élections de mi-terme, Leonidas.
Bon, on est de toute façon dans un panorama politique aux États-Unis qui est assez, comment dirais-je, réactif à tout. Donc, je ne sais pas très bien comment on peut anticiper ces effets-là. Moi, ce qui m'inquiète énormément, c'est les effets miroirs entre les États-Unis et l'Europe. Et les effets miroirs dans même les discours des banquiers centraux. Je suis très préoccupé d'entendre des banquiers centraux défendre leur rôle, leur mission, comme si leur place dans l'économie et dans la société, c'était de venir dire, nous, on est là pour faire le job pour lequel on est payé, pour lequel on était mandaté. Comme si c'était ça que l'on attendait d'eux. Ce qu'on attend d'eux, c'est d'avoir une véritable mission pour l'intérêt général, pour notre économie. Et je pense qu'il y a quand même un paradoxe, justement, cet effet miroir, entre la volonté des banques centrales, de la Banque Centrale Européenne, notamment, de pénaliser, en quelque sorte, l'économie pour qu'elle ne s'emballe pas, et de l'autre côté, des gens s'inquiéter qu'on soit en récession, et d'avoir au contraire une politique budgétaire pour essayer de maintenir de la croissance. Et c'est un paradoxe qui est absolument lunaire.
Ouais, ouais. C'est un point fondamental, parce qu'une autre différence entre les États-Unis et l'Europe, c'est qu'aux États-Unis, on a une politique monétaire restrictive et on a une politique budgétaire qui est à nouveau restrictive, alors qu'en Europe, c'est le contraire. Politiques monétaires très restrictives à nouveau, même si on est décalé de quelques mois, mais des politiques budgétaires qui restent laxistes, accommodantes, en particulier en France. Mais, et donc ça ne peut pas fonctionner.
Mais un mot sur le déséquilibre compétitif accru entre l'Europe et les États-Unis qui va découler de tout ça. Et même au niveau européen, je dis un mot quand même de l'Allemagne qui a donc détaillé aujourd'hui son plan de relance à 200 milliards d'euros qui fait beaucoup jaser, c'est le moins qu'on puisse dire, en Europe aujourd'hui. Voilà. Comment est-ce que vous regardez ça, vous, Didier?
Ça démontre que... J'ai du mal à le dire parce que je suis profondément européen, mais ça démontre que quand même, en Europe, parfois, on devrait un peu plus se parler avant d'agir.
Oui,
là, et là, ça démontre bien que les intérêts de chacun, de chaque pays, pardon, les intérêts de chaque pays passent avant l'intérêt général.
On tombe pas de l'armoire, hein.
Bien entendu. Ouais,
c'est aussi
bien
parce qu'ils ont une meilleure finance publique.
Lorsqu'on le fait au milieu d'un moment où tout va bien, bon, ça peut se comprendre. Mais lorsqu'on le fait au milieu d'un moment où ça va pas très 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 bien, ça ne fait que empirer, ça ne fait que allonger encore les problèmes.
Je pense qu'on est assez d'accord. D'abord, il y a une marge de manœuvre que l'on n'a pas.
Donc, on va dire la situation des finances publiques,
on fait parce qu'ils peuvent.
On l'a fait avant eux, hein.
Oui, bien entendu. C'était 45 milliards.
Parce qu'on peut pas dans les mêmes proportions. On l'a fait.
45 milliards.
Il ne reste plus les marges de manœuvre pour faire également. Mais ce que je trouve quand même assez fascinant, c'est ce paradoxe, mais n'importe quel spectateur de cette situation trouverait ça hallucinant. On injecte de l'argent pour maintenir de la croissance, alors que les banques centrales en retiennent pour essayer de ralentir la croissance. Enfin, je veux bien que les banques centrales aient été justement créées pour les rendre autonomes par rapport à une autorité politique. Conceptuellement, je le comprends.
Mais l'autonomie, ce n'est pas la contradiction.
Oui, l'autonomie,
ça n'est pas la contradiction.
Enfin, il y a un moment donné, enfin, je suis désolé, c'est vrai, vous avez...
La grande différence, c'est que les banques centrales ne sont pas chargées de gérer le social. Alors que, justement, le gouvernement allemand fait ses 200 milliards dans cet objectif, en disant, bon, écoutez, on va vous aider, parce que si on ne vous aide pas, on sait que vous allez tous aller au tapis. Donc, on va vous aider pour le faire.
Oui, mais généralement, le discours politique allemand va en sens inverse. Le discours politique allemand, généralement, est plutôt
orthodoxe.
Il est plutôt en phase avec une politique de discipline budgétaire.
Bien sûr.
Et plutôt derrière la Banque Centrale pour dire serrer un peu les boulons et arrêter d'être accommodant. Et au moment où, justement, la Banque Centrale Européenne cesse d'être accommodante, ils injectent ces 200 milliards.
Mais ça ne vous a pas échappé le problème du gaz. Sans l'énergie, et notamment sans le gaz, l'Allemagne est réellement, mais réellement, au tapis. C'est game over en Allemagne.
Mais en fait, c'est...
Donc, il est nécessaire d'injecter de l'argent pour, comment dirais-je, compenser ce problème géopolitique du gaz.
Et c'est notre intérêt à tous, effectivement. Si l'Allemagne va au tapis, tout le monde va au tapis. C'est pas...
Exactement.
C'est un argument qui s'écoute, Sébastien, non?
Et donc, c'est pas aussi paradoxal que nos intérêts non plus.
Oui, oui.
Bien sûr, c'est simplement rétropédalage de l'Allemagne par rapport à sa politique énergétique. Et c'est tellement important qu'ils s'en sont presque à finalement fouler au pied effectivement ce dogme de l'orthodoxie budgétaire qui était le leur au cours des 50 dernières années, qui prouve que la situation est véritablement grave, notamment pour l'industrie allemande.
Et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que l'Allemagne s'est plantée dans son programme énergétique depuis 50 ans, et là, je ne vois pas encore de solution, j'ai peur d'un nouveau plantage.
Allez, on continue de suivre ce qui se passe en Allemagne, on continue de suivre ce que dit la Fed, on sera à New York dans 20 minutes pour écouter Sabrina Cogliozzi, et puis on débattra bien sûr de ce qui sera dit, 19h pile sur BFM Business. On marque une petite pause, messieurs, puis on a une belle séquence française dans un instant. L'énergie aussi, justement, le projet de loi sur l'accélération dans le nucléaire qui est passé en Conseil des ministres, et puis le projet de loi sur l'accélération dans les renouvelables, qui est arrivé au Sénat, où on l'attend de pied ferme, c'est le moins qu'on puisse dire. A tout de suite.
Good evening business, le débat.
Allez, 18h44, on est reparti, le grand débat avec Didier Julien, avec Leonidas Kalogeropoulos et avec Sébastien Ley. Alors, la France, vous le disiez, qui accélère sur la sortie des énergies fossiles, enfin qui se prépare tout du moins, puisque ce matin, il y a donc ce projet de loi d'accélération du nucléaire qui est passé en Conseil des ministres. Il y a beaucoup de mesures de simplification administrative pour éviter la multiplication des recours. Mais il faut laisser le temps à la concertation. Écoutez Agnès Pannier-Runacher ce matin sur ce sujet.
Je construis les règles du jeu. Je construis, en fait, les chances de succès pour les énergies renouvelables et pour le nucléaire en faisant en sorte que l'on puisse simplifier les procédures. Je crois que les Français comprennent bien
qu'en
France, les procédures sont pas toujours très simples. Ils le voient dans leur quotidien. C'est la même chose pour des grands projets de cette nature. Donc, j'anticipe.
Ouais, sauf qu'en simplifiant les procédures, on gagne 2 ans à tout casser, quoi. C'est pas non plus.
C'est déjà ça.
Oui, c'est déjà ça, bien sûr.
On sait que les décisions que l'on va prendre sur les centrales, c'est des décisions où on va avoir les effets dans à peine moins de 10 ans. Hein. C'est
quand même 35, le premier mandat, les premiers 5 ans. D'Emmanuel Macron, c'est une catastrophe d'un point de vue nucléaire. Donc là,
enfin même bien avant. Hein.
Oui, mais on entièrement d'accord. Hein, mais on aurait pu espérer que ça change. Ça a changé en fin du premier mandat. Aujourd'hui, il y a vraiment urgence. Je veux pas faire de catastrophisme, mais il y a vraiment urgence. Toute année gagnée est bonne. Et c'est pour ça que cette histoire de faciliter les procédures administratives, il faut le faire. Il faut absolument le faire. Et moi, j'aimerais d'ailleurs qu'on puisse l'étendre à d'autres activités, comme par exemple l'activité minière. Qu'on puisse avoir une procédure administrative raccourcie
pour pouvoir
ouvrir des mines en France, puisque on va en avoir besoin. On en a déjà une qui va s'ouvrir, et on en a d'autres. Il y a d'autres gisements qui sont intéressants, et il faudrait qu'on puisse faire la même chose. Parce que là, il y a urgence. C'est vraiment l'intérêt général qui parle.
Sébastien.
La simplification administrative, ça ne concerne pas que le nucléaire, il y a aussi la loi d'accélération sur les renouvelables.
Non, on parle d'un
instant. Ça nous fait encore plus gagner, parce que la durée de développement d'un projet et au lien au solaire est beaucoup plus courte que pour le nucléaire. Donc là, on va gagner. On va avoir la possibilité, par exemple, quand vous avez de la construction d'une nouvelle entité renouvelable, d'être, par exemple, de vendre pour les 18 premiers mois sur le marché de gros et pas sur le marché régulier. Donc il y a quand même des choses à se lancer. Moi, là où je m'interroge, c'est sur le rythme de ces réformes. Depuis quelques jours, il y a un gouvernement qui fait feu de tout bois. On comprend pourquoi, le contexte international. Donc, loi d'accélération sur le nucléaire, les renouvelables, débat public pour la construction des nouveaux réacteurs en Normandie. Alors que le rythme normal de la démocratie, c'était quand même la rentrée et la loi de programmation pluriannuelle du mix énergétique. Là, on rentre dans un débat politique aussi, mais le sujet, c'est que, y compris sur ces questions énergétiques, il y a un enjeu de souveraineté nationale, mais il y a aussi des processus démocratiques, il y a des élus locaux à respecter aussi sur chaque projet. Donc, je m'interroge un petit peu sur la méthode
Leonidas.
Des regards d'autoritarisme dans ce domaine-là.
Non, mais le regard d'autoritarisme, il y a à prendre en considération la démocratie, il y a le rôle des élus locaux, personne ne le conteste, mais en revanche, sur la simplification, il y a quand même quelque chose qui est important, c'est que toutes les procédures que l'on a rajoutées et empilées les unes aux autres ont toutes été faites pour satisfaire une catégorie d'opinions politiques qui sont respectables dans l'absolu et qui disent il faut faire attention à une quantité de sujets,
environnement, écosystème,
l'environnement flore, général, la flore, la faune, tout. Et ce qui est intéressant sur un sujet comme parce que tout ça se passe en même temps et sous nos yeux, c'est que lorsque l'on regarde le conflit sur les bassines
dans les Deux-Sèvres,
toutes les procédures ont été respectées, donc on a pris tous les délais qu'on était en train d'essayer de raccourcir, la totalité des rapports, bien c'est-à-dire sûr. Qu'on a des centaines de pages de rapports, toutes les concertations ont bien été sûr. Menées, et quand on est au bout du bout du bout de l'empilement de toutes ces mesures, on a quasiment une guerre de tranchées à la fin. Donc au bout d'un moment, il faut quand même...
Vous êtes en train de dire que la démocratie ne fonctionne pas.
Alors, c'est là où je voudrais juste oui, répondre. C'est que je veux bien que l'on soit attentif à la démocratie, mais ouais. au bout d'un moment, on veut faire des concessions à la démocratie, à des gens qui vous disent, de toute manière, quelles que soient les procédures préalables, on ne sera jamais content, on ne sera jamais pour, et quelles que soient les décisions qui seront prises, on les contestera, et si on ne les conteste pas voilà. dans les tribunaux, voilà. on les contestera par la lutte et par les ZAD. Donc, il faut arrêter d'avoir un semblant de démocratie. On est devant des gens qui ne veulent pas du débat démocratique.
Là, on est quand même à faire à la représentation nationale avec des députés qui, pour certains, sont pour le nucléaire ou pour les renouvelables. Donc, on n'est pas sur un sujet, un micro-sujet local. Hein. J'essaie simplement de respecter le rythme du Parlement, d'associer l'opposition aussi, parce qu'on sait que, en particulier avec une majorité relative, quand on associe personne de l'opposition, on n'arrive pas au bout de la réforme. C'est alors, ça mon inquiétude.
On ne peut pas ne pas dire... l'associer, puisque vous savez qu'il n'y aura pas de 49-3 sur ce texte, donc il y aura le débat.
À ce stade, on nous dit. Écoutez, juste 20 secondes, Olivier Véran qui parlait après le Conseil des ministres, qui dit je ne veux pas croire qu'on n'arrivera pas à trouver un terrain d'entente sur les énergies renouvelables avec les oppositions. Il parle de la majorité de droite au Sénat. Écoutez Olivier Véran, 20 secondes.
Quand on parle de faire 50 parcs éoliens offshore, quand on parle de multiplier par 10 la puissance solaire dans notre pays, quand on parle de sortir de la dépendance aux énergies carbonées, je crois que le chemin du consensus peut être identifié. Vous avez notamment quelques groupes parlementaires qui sont très portés sur la question écologique et des énergies renouvelables. J'imagine que dans ce domaine-là, la politique politicienne sera la place à l'intérêt général.
Ouais, il y a le congrès des maires dans 3 semaines quand même, l'élection des LR début décembre, donc bon courage quand même.
Moi je reprends notre petite discussion. J'ai lu les propositions du Sénat. Moi je suis tout à fait d'accord, et au contraire qu'on puisse associer les locaux, les maires, les conseils généraux, etc. Ça me semble indispensable pour la démocratie. En revanche, il faut bien comprendre que la situation est urgente parce que le trou énergétique, le mur énergétique, c'est 2050. Alors, 2050, on ne sait plus comment faire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent. Donc le temps est assez court. Lorsqu'on sait...
Attendez, il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent, c'est quoi? Il y a des réacteurs qui, évidemment, d'ici
bien sûr. Voilà. Mais bien entendu. Oui. Donc, pour avoir de l'électricité, comment on fait?
Oui.
Hein, il faut qu'avant 2050, tout soit en place. Et il faut donc chaque année est bonne à chaque année économiser ou chaque année gagner est bonne à prendre. Et c'est pour ça que, à mon avis, il faut pas aller trop vite, certes. Parce qu'il faut associer les locaux. En revanche, cette histoire d'accélérer les procédures administratives est bonne. En associant les locaux, je suis d'accord. Sur l'ensemble du panel, moi, je suis tout à fait favorable au nucléaire. C'est pas parce que j'ai été officier de marine sur les sous-marins nucléaires à l'époque, hein, ça n'a rien à voir. Mais je suis beaucoup plus réservé sur l'éolien, parce que je me dis quand même que là, on a quand même beaucoup d'opposition.
L'éolien terrestre ou l'éolien...
Les deux.
L'éolien terrestre, on l'a tué.
L'éolien terrestre, c'est devenu un gros mot aujourd'hui.
Voilà, exactement. Voilà, en revanche, sur le solaire, franchement, c'est là qu'il faut qu'on mette le paquet. Il faut qu'on en mette partout, sur tous les toits, dans toutes les villes. Et là, on peut faire une différence. On peut réellement faire une différence.
D'ailleurs, il y a les producteurs d'énergie renouvelable, après ces annonces, ils restent quand même dubitatifs, parce qu'ils ont eu l'expérience sur l'éolien terrestre. Et donc, chat échaudé craint l'eau froide. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de déclaration de joie à la suite de la présentation de ce texte.
Bon. Oui, enfin, il y a d'autres pistes. Il y a l'éolien en mer. Ça semble être une piste intéressante. Je crois qu'on allait les mettre nécessairement au-delà de 40 km des côtes.
Donc, c'est ça, c'est l'idée, absolument. 40 km des côtes.
Km des côtes, on est content pour les touristes, pour les communes du littoral. Simplement, il faut, là, discuter avec les pêcheurs. C'est tout simple. Est-ce que c'est une zone de pêche? Oui, non. C'est simple à savoir, ça. C'est très très simple. Est-ce que c'est comme dans la baie de Saint-Brieuc, les coquilles Saint-Jacques qui sont à la rue et on ne sait plus comment faire? Est-ce que ça pollue, etc., etc. Ça, si on n'en tient pas compte, on n'aura que des oppositions. Donc il faut juste un peu d'intelligence.
Accélérer sur le nucléaire, accélérer sur les renouvelables. Et puis j'en dis un mot, il y avait ce rapport de l'OPEP aussi. Alors c'est l'OPEP qui le dit, mais c'est corroboré par beaucoup d'experts qui vous disent malgré tout, n'enterrons pas le pétrole trop vite pour autant. Mais enfin, on aura encore besoin d'énormément de quantités de pétrole. On aura encore besoin de.
Non seulement on a besoin
pétrole,
d'énormément.
Au moins jusqu'en 2035. Voilà,
et pardon, mais au risque d'être. Hérétique sur le sujet, mais quitte à avoir du pétrole, autant faire en sorte qu'on l'extrait et qu'on le traite de la manière la plus respectueuse de l'environnement qui soit. Et je pense que nous avons en France les industriels les plus respectueux de l'environnement quand il s'agit de pétrole.
En tout cas, les plus contraints.
Je ne dis pas qu'ils l'ont fait avec joie et enthousiasme, mais en tous les cas, ils ont été contraints et ils se sont pliés à ces contraintes. Et donc, condamner ou mettre au pilori notre acteur de référence sur le pétrole, Total en l'occurrence, qui est certainement le plus performant et le plus, entre guillemets, écologique des acteurs qui traitent le pétrole, c'est nous condamner nous-mêmes à devoir utiliser du pétrole qui est traité et exploité dans les moins bonnes conditions.
Certes, mais le message... Oui, mais le message plus de pétrole ou autant de pétrole, à mon avis, il est réellement inaudible et à bon escient.
Non, mais quitte à avoir du pétrole, autant qu'il soit effectivement respectueux de l'environnement. C'est le seul message qui, me semble-t-il, est quand même audible.
Donc vous voulez dire, par exemple, pas de pétrole de schiste importé ou ce genre de production?
Enfin, en tous les cas, en dernier ressort. Et pour pouvoir être maître de la qualité, si je puis dire, environnementale du pétrole que nous utilisons, nous avons besoin d'avoir notre champion national. C'est une chance, on en a un. Et d'ailleurs, c'est pas vrai, on
d'accord
en a pas
ça,
qu'un,
Didier.
On en a beaucoup.
D'autant plus que c'est un champion national qui doit néanmoins voir sa production de pétrole diminuer, mais dans le même temps, puisqu'il le fait, Total Énergie au pluriel, c'est l'électricité. Il faut le paquet, ça c'est très 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 bien. Moi j'aimerais beaucoup que Total Énergie soit le vecteur de l'énergie solaire urbaine. C'est-à-dire, on en met partout, et que Total dise, bon, ok, moi j'en mets sur tous les immeubles, partout, et que ce soit dans la loi, que ce soit obligatoire. C'est d'ailleurs dans la loi, et c'est plus ou moins obligatoire. Il faut que ça, et ça, il faut que ça
progresse. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une séquence dans laquelle on a la totalité du mix énergétique.
Absolument.
Qui est en train d'arriver devant nous.
Dernier J'attends point... de voir comme à quoi va ressembler ce débat au Sénat, là, sur les énergies renouvelables.
Ouais, exact.
Dernier point, ne pas opposer, comme certains le font, nucléaire renouvelable. Le nucléaire,
Exactement.
C'est une énergie renouvelable, et
Exactement.
En plus, on a des difficultés d'EDF. Renouvelable et d'accélérer maintenant sur le renouvelable.
Même les écolos allemands. Peut-être qu'un jour, on prendra en compte ce qu'on appelle les déchets nucléaires, parce que, bon, c'est un peu plus pointu, mais si un jour on a des centrales nucléaires de génération 4, après le réacteur, on peut utiliser ces déchets comme combustible, et nous avons sur notre sol, sans faire appel à de l'uranium minier, entre 5 et 10 000 années d'électricité.
D'autonomie avec nos déchets.
Exactement.
Absolument.
Ça, je le dis déjà depuis des années.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on a ralenti notre politique nucléaire à cause de gens qui, aujourd'hui, se sont convertis au nucléaire.
Exactement.
C'est-à-dire que ça a été des effets de mode, et voir qu'on a pénalisé à ce point notre filière pour un effet de mode, c'est quand même assez consternant.
C'est vous trois que je devais envoyer au Sénat justement pour faire la pédagogie de toutes ces questions à l'occasion de ce débat sur le
renouvelable. Nous sommes disponibles.
Si vous êtes disponibles, voilà. L'appel est lancé. Merci beaucoup messieurs d'être venus ce soir pour évoquer tous ces grands sujets d'actualité. Léonidas Kalogiropoulos, président de Médiation Argument, président d'Entrepreneurs pour la République. Sébastien Lay, économiste, directeur de recherche à l'Institut Thomas More. Et puis Didier Julien, président de Commodities and Resorts. Merci beaucoup messieurs d'être passés nous voir ce soir. À très vite pour de nouvelles aventures. 18h56, on marque une pause. La Fed, donc, elle parle dans un instant. On va savoir si c'est bien 75 points de base, ce nouveau tour de vis. Ça a l'air relativement gagné à l'heure actuelle. Mais surtout, on suivra les commentaires du patron de la Fed qui se fait exprimer aux alentours de 19h30. La question est de savoir si on continuera ou pas le mouvement en décembre et dans les prochains mois. On vous raconte tout ça sur BFM Business. On est ensemble jusqu'à 20h dans Good Evening Business. À tout de suite.
Good Evening Business. L'invité.
Voilà, 19h20 sur BFM Business. On va parler de cette offre qui risque de bousculer un petit peu la concurrence entre les plateformes de VOD. L'offre à prix cassé de Netflix, elle arrive demain en France. 5,99€ par mois. Oui, mais il n'y aura pas tous les programmes et il y aura de la pub avant et pendant les programmes. On va en parler, ça, avec Jean-Luc Chétry qui est avec nous. Bonsoir Jean-Luc Chétry.
Bonsoir.
Bonsoir, directeur général de l'Union des marques, côté annonceur, qui rassemble 240 adhérents. Dont 41 dans le top 100 des annonceurs en France. J'entends déjà des gens du monde de la télévision, du monde des séries qui disent « Ah mais le fait qu'on laisse entrer un petit peu le loup dans la bergerie, ça va pousser Netflix à revoir un petit peu la façon dont les contenus sont conçus finalement. » Il y a un danger pour vous, quelque part, que pour faire plaisir aux annonceurs, certains programmes de niche qui ont fait le succès de Netflix aussi soient moins présents. Vous craignez ça ou...
Bon, je crois pas que ça soit le
problème. Ce sont les annonceurs qui vont faire la loi dans cette histoire.
Je crois que c'est surtout, de ce que je comprends, une possibilité pour un certain nombre d'utilisateurs de pouvoir accéder au contenu Netflix à un prix plus bas.
Ouais.
Et au fond, on retrouve la valeur de la publicité, comme sur toutes les chaînes. La publicité, elle rend gratuit des contenus.
Ça coûte combien un spot de pub sur Netflix? On sait quantifier ça ou pas aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, c'est un des grands sujets, quand même. On va voir ce que le marché dit, puisque ça va être mis en vente donc dans les heures qui viennent. Ce qui est annoncé c'est un prix au CPM, hein, donc c'est vendu non pas comme un spot télé, mais c'est vendu comme du digital, à 49 euros du CPM, donc à un prix très élevé, hein, CPM, c'est deux, trois spot. Fois,
oui, ça.
C'est l'impression, ouais. Donc c'est vendu comme une impression publicitaire, comme du digital, mais sans tout le ciblage du digital, donc il y a beaucoup de points d'interrogation dans l'offre Netflix du moment. Hein. Le premier point d'interrogation, c'est combien d'utilisateurs, combien de Français vont s'abonner. Il y a 12 pays qui se lancent simultanément. Combien vont réellement passer à cette offre? L'autre question, c'est est-ce que une partie des utilisateurs de Netflix va baisser son abonnement et quitter des abonnements payants premium pour aller vers un abonnement moins cher? Voilà. Et à partir de là, après, il y a la question de la publicité, qui est une opportunité. Hein, les marques sont plutôt contentes de pouvoir ouvrir, mais elles demandent, on va sûrement en reparler, que Netflix applique les mêmes règles que les autres acteurs.
Ben voilà, ben justement, on en parle parce que de ce qu'on lit depuis quelques jours, quelques semaines, on a l'impression que du côté des annonceurs, on est un peu frustré, on a l'impression que tout ça s'est fait à la hussarde et sans vraiment vous consulter en France, annonceurs, maire général. Est-ce que vraiment Netflix s'est passé un petit peu en force là, sur ce coup-là pour vous?
Oui, je pense que Netflix a été très vite. Il y a probablement un peu de précipitation dans le lancement, ce qui a conduit, moi j'étais à New York il y a quelques jours avec tous mes homologues partout dans le monde, mes homologues ont la même situation que celle que nous avons rencontrée en France, c'est-à-dire très peu de contacts, pour pas dire pas de contacts. En l'occurrence, en France, nous avons eu la chance d'avoir un rendez-vous il y a 8 jours. Mais les équipes de Netflix France nous ont expliqué qu'elles n'étaient pas en charge du développement de cette offre, que cette offre était gérée au niveau global et ensuite confiée à Xander, qui allait être le partenaire technologique pour la mise en marché. Nous allons rencontrer Xander. Donc vous voyez, l'offre est lancée demain, mais nous n'avons pas encore toutes les clés. Alors demain, vous verrez, pour ceux qui accéderont à cette offre, des marques, les marques naturellement vont rentrer sur cette plateforme, mais avant que ça devienne massif, que ça représente plusieurs dizaines de millions d'euros en France, il va se passer un peu de temps.
Il va se passer un peu de temps, tout ça va se mettre en place. J'ai une question à vous poser sur Twitter, le nouveau Twitter façon Elon Musk. Comment est-ce que les annonceurs regardent ce nouveau projet aujourd'hui? Apparemment, il y a quelques réserves. Tout le monde ne veut pas en être, ne veut plus en être, visiblement, dans cette configuration.
Avant même de décider si on en est ou on n'en est pas, il faut déjà comprendre ce que Elon Musk veut faire. C'est pas forcément très très clair.
Vous le savez, vous? Non, on ne sait pas.
Non, mais j'ai quand même vu qu'il avait répondu à Thierry Breton qui lui avait dit l'oiseau volera par les règles de l'Union Européenne. Et il a répondu oui, en effet, nous respecterons toutes ces règles. Bon, dont acte. On espère bien parce que, en effet, dans le passé, Twitter, comme d'autres plateformes, n'ont pas été suffisamment attentives au contenu qui était diffusé et donc aux marques qui se retrouvaient à côté de contenus inappropriés, voire même violents. Nous avions, au sein de la Fédération mondiale des annonceurs, créé une coalition pour mener la transformation. Twitter en faisait partie. On va voir si Twitter poursuit ou si Twitter fait marche arrière. Et soyons très clairs, si Twitter fait marche arrière sur ce chemin qui est d'aller vers plus de responsabilités sur les plateformes, alors je pense qu'en effet, les marques en tireront les conséquences.
Mais on peut voir des marques se retirer, des marques notables pour vous. Ça, c'est un danger.
Bon, on a vu aux États-Unis General Motors décider de se retirer, mais avant de pouvoir parler d'un mouvement majeur, il faut se donner un peu de temps.
Oui, c'est beaucoup de bouleversements pour le monde des annonceurs aujourd'hui, hein, la montée en puissance de ces réseaux sociaux. J'ai une question à vous poser, puisqu'il nous reste 2 minutes, sur le contexte du secteur publicitaire. Apparemment, les mois prochains ne s'annoncent pas aussi rose pour les annonceurs, parce que le contexte économique est ce qu'il est, finalement.
On suit attentivement ce qui se passe sur BFM Business, donc on voit bien la montée des taux de la Fed que vous commentez, les évolutions économiques du contexte donc macroéconomique dans lequel les entreprises opèrent, et bien ça a une conséquence sur le marché publicitaire. C'est un marché qui est devenu plus incertain, plus volatile. Il est difficile de faire des prévisions. Les prévisions ont plutôt tendance à être revu à la baisse, mais jusque-là, le marché était plutôt positif. C'est-à-dire que l'année 2022 va se terminer sur une hausse assez significative du marché publicitaire. La question, c'est 2023, mais il n'y aura pas d'exception. Le marché publicitaire n'est que la conséquence de la croissance économique des entreprises.
Et comment on s'adapte dans cette configuration quand on est annonceur aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait?
On fait des choix, on est beaucoup plus focus, on fonctionne par priorité, et puis les marques sont très conscientes qu'en période de crise, et malheureusement on peut s'attendre à avoir une période de récession dans certains pays, en l'occurrence en France, d'avoir une tension économique, eh bien les marques qui continuent à investir sont celles qui s'en sortent le mieux. Donc elles essaient de préserver autant que possible des investissements pour continuer à parler à leur public. Oui. Mais c'est difficile.
C'est difficile, évidemment. Vous êtes l'illustration même de ce qui se passe en France sur le plan conjoncturel. Vous en tirez les conséquences. Voilà pour ce secteur de la publicité, les défis Netflix, Twitter et puis la conjoncture économique. Merci beaucoup Jean-Luc Chetrit. Merci de passer nous voir, le président de l'Union des marques avec nous ce soir sur BFM Business. Merci beaucoup d'être passé nous voir.
Merci à vous.
19h26, c'est terminé pour aujourd'hui. Thomas Asportas, dans un instant, reçoit Olivier Andriès, le directeur général de Safran. Et nous, on se retrouve bien sûr demain pour nouvelles aventures à 18h. Bonne soirée, à demain.
BFM Business. Good evening business. La grande interview, Thomas Asportas.
Bonsoir à tous, la grande interview de BFM Business ce soir avec le directeur général de Safran. Bonsoir Olivier Andriès.
Bonsoir Thomas.
Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur le plateau de BFM Business. Vous êtes ici parce que vous avez publié, juste avant le pont de la Toussaint, votre chiffre d'affaires du troisième trimestre. C'est très bon, hein, plus 30% de croissance, plus 18% en organique. Dans la même période, on a Airbus, on a Air France, tout le secteur a publié très bons résultats. C'est le signe que la reprise est là, hein, peut-être que la page de la pandémie est derrière vous. Les résultats sont très bons dans votre secteur, malgré l'inflation, les prix des billets qui explosent, la guerre en Ukraine, les pénuries, etc. Enfin bref, tout le contexte macroéconomique qu'on connaît. Comment est-ce que vous expliquez la résistance de l'aérien, Olivier Andriès?
Ben, nous sommes encore dans un contexte de reprise du trafic aérien. Vous savez que le trafic aérien a fortement chuté en 2020.
Bien sûr, oui.
Ça a été un choc sans précédent de la demande, avec un écroulement de 80% du trafic aérien mondial. Et on est dans cette phase de reprise du trafic aérien avec l'objectif que l'on revienne à la situation d'avant-crise en 2023, c'est-à-dire l'année prochaine. Et donc chaque trimestre de cette année, on a vu une progression du trafic aérien dans toutes les zones géographiques, à l'exception de la Chine.
Oui, bien sûr, parce que là-bas, en Chine, les confinements, les stop and go se poursuivent. Donc vous dites retour à la normale, enfin au niveau d'avant-crise, l'année prochaine.
Retour à la normale sur le trafic des avions moyens courriers, qui sont les avions que nous motorisons.
Ouais.
Donc retour à la normale en 2023.
Ouais.
Et retour à la normale, nous l'espérons, sur les avions gros porteurs,
les longs courriers,
en 2024.
2024, donc on se rapproche du retour à la normale. Malgré, parce que tout le monde l'a constaté, hein, enfin en tout cas ceux qui ont la chance de voyager, malgré des prix d'avions qui explosent, oui. Hein, des billets d'avions qui explosent.
Les
ça ne freine pas les voyageurs, ça?
Pas du tout, il y a une vraie demande. Quand les gens sont autorisés à voyager, en fait, ils décident de voyager. En fait, il y a une vraie demande.
Quoi qu'il en coûte.
Je ne dirais pas ça, mais ils décident de voyager. Regardez aux États-Unis, le trafic est revenu à son niveau d'avant-crise aux États-Unis.
Mm-hmm.
C'est vrai aussi en Amérique latine, c'est vrai au Moyen-Orient. En Europe, on est encore 10 à 15% en dessous du trafic d'avant-crise.
Ouais, ouais.
Le seul doute, le seul sujet d'incertitude, c'est la Chine, compte tenu de la politique zéro Covid du gouvernement chinois. On a effectivement une situation qui est très volatile.
Ouais.
En fonction des mois de l'année.
Et ça, vous subissez, vous ne pouvez rien faire contre.
On subit.
Bon.
Absolument.
Donc, dans l'ensemble, la demande est repartie très fort.
Elle est repartie.
En face, les problèmes ne sont pas nouveaux, mais on a l'impression que ça s'empire. L'offre ne suit pas, la supply chain ne suit pas. On ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe chez les sous-traitants aéronautiques, Olivier Andriès?
Alors, effectivement, on est passé d'une crise sans précédent de la demande en 2020 à une crise sans précédent que nous vivons aujourd'hui sur l'offre, c'est-à-dire la chaîne des fournisseurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On est une chaîne de fournisseurs qui souffre énormément aux États-Unis, beaucoup plus qu'en France.
Pourquoi?
En France, pendant la crise Covid, le gouvernement français a pris des mesures relativement protectrices pour l'emploi, pour le maintien de l'emploi dans les groupes industriels. Ces mesures ont porté leurs fruits parce qu'elles nous ont permis de ne pas licencier, de maintenir l'emploi et de maintenir les compétences. Et donc, quand il a fallu repartir parce que le trafic aérien revenait au milieu de l'année 2021, côté français, la chaîne de fournisseurs a plutôt bien répondu et on est reparti. Côté américain.
Donc vous dites, pardon, il n'y a pas de problème de supply chain en France. En gros.
En France,
ça suit.
En France, la chaîne de fournisseurs suit.
OK.
Aux États-Unis, ce n'est pas la même histoire. Aux États-Unis, le gouvernement à l'époque américain n'a pas pris de mesures protectrices.
Mm-hmm.
Ce qui fait que l'ensemble des acteurs américains industriels ont été amenés à réduire drastiquement leurs effectifs pour encaisser le choc de la demande.
Ouais.
Les gens sont partis.
D'accord.
Ils sont partis
ouais.
et ils sont partis faire autre chose. Ils ne reviennent pas. Et donc aujourd'hui, Alors que les avionneurs nous demandent de remonter en cadence, effectivement, les groupes américains, nos partenaires et nos fournisseurs américains ont du mal à réembaucher, à recruter.
D'accord.
L'exemple typique, c'est aujourd'hui la fonderie, la fonderie structurale qui alimente l'ensemble des motoristes et l'ensemble des avionneurs de l'aéronautique. L'essentiel des activités se trouve dans l'Oregon.
Oui.
Dans l'Oregon. C'est là que les grands fondeurs sont.
La côte ouest,
Oui, sur la côte ouest. Et ils ont licencié.
Et ils trouvent pas de main-d'œuvre.
Beaucoup de soudeurs.
Ouais.
Et aujourd'hui, ils n'arrivent plus à retrouver des soudeurs. Et donc, aujourd'hui, c'est ça qui est sur le chemin menant, sur le chemin critique de la reprise des livraisons de moteurs, d'avions.
Pourtant, l'aviation, l'aéronautique, c'est aux États-Unis en plus, c'est un peu mythique, non? Enfin, ça fait plus envie aux gens.
Les gens sont partis faire autre chose et on a visiblement nos partenaires du mal, beaucoup de mal à recruter. Alors là-dessus, c'est surajouté la guerre en Ukraine.
Ouais.
Et donc les pénuries et des tensions géopolitiques en Ukraine, mais aussi
de matières premières
autour de la Chine et de Taïwan, etc. Et donc on a vu depuis le début de l'année des tensions sur les approvisionnements en matières premières. Mm-hmm. Le titane, évidemment, le titane russe, mais également le nickel, l'aluminium, un certain nombre de matériaux chimiques aussi, qui font que la chaîne de fournisseurs a du mal à s'approvisionner en matières premières et donc à fournir des pièces.
D'accord.
Bon. Plus les composants électroniques, une crise des composants électroniques qui a énormément fait souffrir l'industrie automobile et dont on ressent également le choc.
Vous aussi. Vous n'arrivez pas à être un client servi en premier?
Non,
comme l'industrie des smartphones. Non, l'aéronautique n'est pas prioritaire dans la livraison.
1% de la consommation de composants électroniques.
Alors,
donc nous sommes très petits au niveau mondial. Nous sommes très petits par rapport à l'automobile, par rapport
à la tech.
À la tech.
Ouais.
Et donc effectivement, c'est très difficile de se faire une place. Alors pendant un certain temps, on avait des stocks.
Ouais.
Donc on a pu jouer sur les stocks globalement. Hein, je ne parle pas simplement Safran.
Ouais, ouais.
Je parle de l'industrie aéronautique mondiale. Mm-hmm. Mais là, aujourd'hui, il faut se battre tous les jours, pour avoir des composants, pour avoir des pièces.
Des pièces, bon.
Donc c'est ça ce qui se passe,
et ça
se passe
très clair
partout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la reprise est difficile, le ramp-up, ce qu'on appelle la montée en cadence progressive, est difficile.
Et alors là où c'est d'autant plus difficile, c'est qu'il y a un effet ciseau, c'est-à-dire qu'on a très bien compris ce que vous venez de nous expliquer, mais en face de ça, avec la reprise, vous avez Airbus, qui veut encore accélérer la cadence. Là aujourd'hui, on en est à combien de monocouloirs par mois?
Je crois qu'Airbus est autour de 40 par mois, peut-être légèrement plus. Il faudrait poser la question
à
Monsieur Guillaume Faury.
Patron
d'Airbus. Que l'objectif d'Airbus, c'est d'augmenter régulièrement la cadence, avec l'objectif de monter, ils l'ont dit, à cadence 65 en 2024.
Ouais.
Nous nous sommes engagés à les suivre jusqu'à cette cadence 65 en 2024. Airbus souhaite même aller jusqu'à cadence 75
en 2025.
Mais aujourd'hui, ce n'est pas la demande. Il y a une demande d'avions. À la fois chez Airbus et chez Boeing. Aujourd'hui, le sujet, c'est la capacité de la chaîne de fournisseurs à suivre cette montée en cadence.
Non, mais ça, on a bien compris. On voit bien où est le problème. Mais Airbus n'entend pas, visiblement, puisqu'ils maintiennent ces objectifs. Aujourd'hui, vous avez du mal à livrer 40 avions par mois. Ils vous disent, je ne veux pas savoir, vous vous débrouillez, j'en veux 65 dans 2 ans, 75 dans 3 ans.
Airbus est parfaitement conscient de la situation. D'ailleurs, Airbus a décalé de 6 mois. C'est une décision qui a été prise l'été dernier. Airbus a décalé de 6 mois les différentes étapes de montée en cadence. Voilà où on en est. Et aujourd'hui, nous nous sommes engagés à les suivre sur leurs étapes de montée en cadence. Mais c'est un chemin.
Les 65 monocouloirs par mois en 2024.
En 2024, c'est l'objectif. Mais
ça, vous dites, on peut y arriver.
Ce que je vous dis, c'est que on va tout faire pour y arriver.
Ouais.
Évidemment, c'est notre objectif. Tous les jours, nos équipes se battent.
Ouais.
Et les équipes de l'ensemble des fournisseurs se battent pour y arriver. Mais c'est un challenge parce que la situation de la supply chain, comme on dit, est difficile, notamment aux États-Unis. Et je pense que ça perdurera jusqu'en 2023.
Encore l'année prochaine, donc les difficultés aux États-Unis. Alors, le mot que vous avez employé, challenge, c'est le mot que vous avez employé aussi pour la remontée en cadence de vos moteurs. Les LEAP. Vous dites finalement cette année on en fera un peu moins de 1200.
Oui.
Et l'année prochaine, vous dites on va en faire 2000 et ces mots que vous avez employés, ça va être un challenge.
Ça va être un challenge.
Mais ça, c'est une manière polie de dire que, enfin, passer de 1200 à 2000, ça fait plus 66%
c'est
en
beaucoup,
un an.
C'est énorme, effectivement.
Mais donc,
c'est
donc non, ce ne sera pas autant.
On va se battre, tous les jours pour y arriver avec notre partenaire GE, parce que vous savez que les moteurs LEAP,
c'est une entreprise.
On les fait en partenariat avec notre partenaire américain GE, et donc pour livrer un moteur. Il faut que les deux partenaires soient au rendez-vous.
Donc vous maintenez quand même cet objectif.
On maintient cet objectif qui restera un objectif challenging, comme on dit, c'est-à-dire très ambitieux.
Très ambitieux. Bon, Olivier Andriès, le business va bien, mais la crise énergétique fait que vous allez peut-être renoncer, c'est une annonce que vous avez faite, enfin en tout cas une menace que vous laissez planer, vous allez peut-être renoncer à un projet de nouvelle usine en France, qui avait été annoncé en 2019, hein, je crois, par votre prédécesseur Philippe Petit-Collin. C'est à Fézin, dans la banlieue de Lyon, une usine de fabrication de disques de frein carbone, parce que l'énergie coûte trop cher. C'est un problème qui n'existait pas à l'époque, qui aujourd'hui crève l'écran. Vous êtes sérieux? Vous renoncez? Vous envisagez de renoncer à cette usine?
Alors, en 2019, nous avons donc annoncé notre projet de créer une quatrième usine de frein carbone. Vous savez, nous sommes leader mondial dans le domaine des freins carbone. C'est une technologie que nous avons développée. Et aujourd'hui, nous sommes numéro un mondial dans ce domaine. Et nous livrons donc les flottes mondiales, les flottes au niveau mondial, tous les avions. En 2019, on voyait devant nous une augmentation de la demande et donc, pour nous, un besoin d'augmenter notre capacité. Sachant que nous avons déjà trois usines de frein carbone, une en France, à Villeurbanne,
tout à fait,
une aux États-Unis et une en Asie, en Malaisie en fait, pour être très précis. Et donc, nous avions annoncé ce projet en 2019, que nous avons mis sur pause en 2020 du fait de la crise de la Covid, qui a effectivement eu un impact drastique sur le trafic aérien mondial et qui fondamentalement retarde de 3-4 ans les besoins. Et donc, le temps est venu de se reposer la question. Maintenant que le trafic aérien est reparti à la hausse, le temps est venu de se reposer la question de cette quatrième usine. Voilà. Les freins carbone, c'est une activité qui est très consommatrice d'énergie. L'énergie représente 40% du coût de fabrication de nos freins carbone. 40%. C'est donc considérable.
Oui.
Quand je regarde l'évolution du prix de l'énergie entre 2019 et 2023, le prix de l'énergie était à peu près identique. C'est donc l'électricité au mégawattheure et le prix du gaz au mégawattheure. Ce prix était à peu près le même en France, aux États-Unis et en Asie en 2019. Sur les États-Unis et sur l'Asie, ce prix de l'énergie reste à peu près stable entre 2019 et 2023. En France, ce prix sera multiplié par 5. Il a été multiplié par 2 entre 2019 et 2022. Et il est encore multiplié par 2,5 entre 2022 et 2025. C'est donc un facteur 5 qui fait qu'aujourd'hui, je suis amené effectivement à suspendre la décision de créer cette quatrième usine en France et donc de le suspendre pendant 2 ans. Le temps de voir comment le prix de l'énergie va évoluer en France et en Europe dans les 2 ans qui viennent. Et dans l'intervalle, j'augmente les capacités dans mes sites à l'international.
2 ans donc. L'usine devait ouvrir quand initialement?
L'usine devait ouvrir initialement en 2024.
Donc ce sera au mieux pas avant 2026.
Et donc là, si on prend la décision de lancer cette usine aujourd'hui, ce serait pour une ouverture en 2028.
Pourquoi 2028? Ah, parce qu'il y a le retard Covid aussi.
Parce qu'il y a le retard Covid aussi. Donc c'est à peu près le temps qu'il faut pour les nouveaux procédés, le développement des nouveaux procédés de cette usine, et puis la mise en place de l'usine. Donc 2028.
Ok. 4 ans de retard.
Effectivement, j'ai un besoin capacitaire pour 2028.
Ouais.
Mais aujourd'hui, je ne suis pas en état, compte tenu des prix de l'énergie en France et en Europe, de prendre cette décision qui serait économiquement pas raisonnable.
Que vous répond Emmanuel Macron? Parce qu'on sait qu'il veut absolument cette usine. À l'époque, il s'était déplacé sur place, encore une fois auprès de votre prédécesseur, qui avait d'ailleurs poussé un coup de gueule à l'époque en disant que c'était trop compliqué d'ouvrir des usines en France. Là, maintenant, le problème est autre, c'est le problème de la facture énergétique. Qu'est-ce qu'il vous répond Emmanuel Macron quand il vous entend dire que cette usine est menacée?
Je n'ai pas eu de discussion directe avec le président de la République sur le sujet, mais ce que j'ai annoncé, c'est une suspension pendant 2 ans. Ce n'est pas un renoncement au projet, c'est simplement...
Non, mais on comprend bien que si les choses ne s'améliorent pas, eh ben vous faites une croix.
Si les choses ne s'améliorent pas dans les 2 ans qui viennent, je pense qu'a priori, la décision ne pourra pas être de faire cette quatrième usine en France, malheureusement.
On parle d'un investissement à 230 millions d'euros.
250 millions, à peu près.
Ouais. C'est colossal. Et alors, donc là, on parle de l'usine de Fézin. Visiblement, enfin, c'est compromis. Est-ce qu'il y a d'autres sites safran en France qui sont menacés? Pour les mêmes raisons de compétitivité, coût par rapport à l'énergie.
Il n'y a aucun de nos sites actuels qui sont menacés. Nous ne sommes pas, je ne vous parle pas de délocalisation. Nos sites actuels ne sont pas menacés.
Villeurbanne, par exemple, n'est pas très compétitif à côté. Est-ce que Villeurbanne
a des activités Donc c'est vrai qu'effectivement, avec le prix de l'énergie d'aujourd'hui, la compétitivité de Villeurbanne est moins bonne par rapport aux autres sites. On l'accepte, mais aujourd'hui...
Villeurbanne n'est pas menacée.
Villeurbanne n'est pas menacée. Aucun site industriel de Safran en France n'est menacé. Je ne parle pas de ça. Je parle simplement de décisions nouvelles quant à l'implantation de nouveaux sites en France, notamment dans des domaines qui sont très consommateurs d'énergie. Et vous savez, on a inauguré ce dernier mois, on a inauguré 3 sites nouveaux en France. On a inauguré un site à Créteil. On a regroupé l'ensemble de nos équipes dans le domaine de l'électrique. Pour l'aviation, c'est un des éléments de la décarbonation de l'aviation. Donc l'ensemble de nos équipes électriques est regroupé à Créteil. C'est un site d'à peu près 500 personnes. On a annoncé un nouveau laboratoire à Vélizy pour développer les systèmes de trains d'atterrissage de demain. Et on a annoncé, au début du mois d'octobre, un nouveau site de fabrication additive dans la région de Bordeaux.
Tout à fait.
Et alors, donc, vous voyez, on continue à avoir des activités et de développer nos activités en France.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'en l'occurrence, sur cette activité-là, qui est très consommatrice d'énergie, on a...
Et vous vous engagez, parce que vous avez employé le mot, vous vous engagez à ne pas délocaliser.
Absolument.
Parce que des industriels s'y mettent en Europe. Hein. Vous avez vu BASF dans la chimie. Alors, c'est très effectivement électro-intensif. Ils disent, on réduit la voilure en Europe, on va aller en Chine. On a Northvolt... Il y a un gros acteur suédois de la batterie qui devait installer une grande usine en Allemagne qui dit finalement je vais le faire aux États-Unis où j'ai des grosses subventions avec le Reduction Inflation Act. Vous, il n'en est pas question chez Safran.
Non.
Vous prenez cet engagement-là.
Safran est une entreprise responsable, donc il n'y a aucun projet de délocalisation de nos activités en France.
Et alors, vous l'avez dit à l'occasion de la publication de votre chiffre d'affaires, vous attendez quand même des aides. Des aides françaises, des aides européennes, pour être plus compétitives. Vous dites, il nous faut, nous aussi, les grands groupes, un bouclier tarifaire.
Ce que j'ai dit, c'est simplement que moi, je me donne 2 ans pour voir comment la situation va évoluer en France et en Europe. Ce que je constate, c'est que le gouvernement allemand a pris une décision très significative de protéger son industrie en mettant en place une sorte de bouclier tarifaire sur l'énergie.
Tout à fait.
Et donc la question, c'est évidemment une question. Je crois que le gouvernement français se la pose. D'ailleurs, il a pris des décisions, le gouvernement a pris des décisions la semaine dernière qui ont été annoncées pour les PME, mais ça ne touche pas les grands groupes.
Et pour vous, parce que enfin, vous entendez l'argument de Bruno Le Maire, qui dit la France est à l'euro près, on n'a plus les moyens. On n'est pas comme l'Allemagne, les caisses sont...
Je le comprends, je l'entends.
Donc c'est bon, chacun ses problèmes, enfin chacun...
Je comprends, je l'entends.
Olivier, Andriès, on parlait des États-Unis justement de ce plan de lutte contre l'inflation. On voit que de plus en plus de groupes cèdent un peu à ces sirènes-là. Hein. Et d'ailleurs, du côté de Bercy, on s'en cache pas. En off, c'est un vrai sujet. Est-ce que c'est difficile de résister à ces subventions, d'aller relocaliser des activités là-bas quand on a de tels gestes promis par l'administration Biden? Est-ce que c'est tentant de se dire, finalement, en ce moment, ce serait pertinent d'aller renforcer nos activités, notre production là-bas?
Nous sommes une entreprise
mondiale. Entre les prix de l'énergie très bas, plus des subventions, ça fait réfléchir.
Tous les pays ont une politique d'attrait d'investissement étranger. La France aussi, d'ailleurs. La France est compétitive de ce point de vue-là.
D'accord.
Donc le sujet pour moi, c'est vraiment le sujet de la compétitivité de l'industrie au regard du prix d'énergie.
Et alors, justement...
C'est un sujet global.
Oui, mais alors justement, la compétitivité de l'industrie européenne, autant quand il y a eu la pandémie, on a vu que l'Europe a réagi très vite et très fort, et comme vous l'avez expliqué, quand il y a eu la pandémie, l'aérien était protégé, mais ça a valu pour tout, autant là, l'Europe cale n'arrive pas à protéger son industrie face à cette crise énergétique, et qui est en plus un problème spécifiquement européen. Il n'y a pas de crise énergétique aux États-Unis et en Asie. Comment est-ce que vous expliquez les lacunes européennes face à cette crise? Parce que ça peut faire très mal, dans quelques mois, des usines qui ferment, des milliers d'entreprises sur le carreau.
Toute la question est combien de temps ça va durer. Est-ce que les prix de l'énergie vont baisser dans les mois qui viennent? C'est la question. Est-ce que EDF sera en mesure de rebâtir des capacités dans le domaine nucléaire dans les mois qui viennent, ouais. avec la remise en route des réacteurs qui sont actuellement en maintenance.
Ouais.
À quelle vitesse ça va se faire ? Je ne sais pas répondre.
Bien sûr. Mais...
Comment le prix du gaz au niveau mondial va évoluer ?
Ouais.
Comment le prix de l'électricité en Europe va évoluer ? Tout ça, ce sont des éléments qui restent à définir et à voir.
Évidemment. Et que là aussi, vous subissez, Olivier Andriès, l'Europe cale aussi sur Ariane 6. Encore un retard. Alors, le premier vol, ça devait être en 2020, 2022. Et finalement, on a appris il y a quelques jours que ce serait dernier trimestre 2023. Safran, vous êtes un des premiers actionnaires d'Ariane Group. Explique, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi Ariane 6 ne décolle pas ?
Alors, d'abord, il faut relativiser.
On ne comprend pas, hein, sincèrement, on ne comprend pas.
Oui, alors c'est vrai, factuellement, il y a 3 ans de retard par rapport au plan de développement qui avait été annoncé initialement avec un premier vol qui était prévu en 2020.
Ouais.
Factuellement, 3 ans de retard. Alors, c'est vrai qu'il y a le Covid qui est passé par
évidemment.
Là. Évidemment, qui a créé beaucoup de perturbations et qui explique une partie de ce retard. Ça n'explique pas tout, mais ça explique une partie de ce retard.
Bien sûr.
À côté de ça, il faut relativiser un peu et revenir à ce qui s'est passé sur Ariane 5 il y a 20 ans, 20 ou 25 ans. Ariane 5, il a fallu 10 ans entre la décision de lancement d'Ariane 5 et le premier vol d'Ariane 5, qui en l'occurrence a été un échec. À l'époque. Donc, vous voyez, les débuts ont été un peu difficiles. Et après ça, il y a eu 20 ans de succès commerciaux sur Ariane 5. Donc, Ariane 6, je pense qu'à l'époque, au moment où le lancement, où la décision de lancer le développement a été prise en 2014, à l'époque, on a visé un développement en 6 ans.
Ouais.
Ce qui était en fait très ambitieux au regard de l'expérience passée d'Ariane 5. Si on lance le premier vol en 2023, ça fera 9 ans.
Ouais.
Ariane 5, 10 ans. Ariane 6, 9 ans. Vous allez me dire, c'est pas un grand progrès.
Ouais,
c'est vrai.
Voilà.
C'est pas un grand progrès, mais...
C'est pas pire, ça, oui, mais c'est bon. Ça dépend
ça
comment on voit les choses.
Ça relativise un petit peu.
Ouais, ouais.
Le deuxième point que je voulais vous dire sur Ariane 6, c'est qu'on a eu quand même ces dernières semaines une très belle étape qui a été franchie avec la première mise à feu de l'étage supérieur.
Oui, tout à fait.
Après quelques mois de retard, notamment sur le site allemand du DLR, qui est en fait l'institut qui est l'ONERA allemand. D'accord ? Et donc, la première mise à feu de l'étage supérieur a été un succès. Et donc, c'est une étape importante qui a été franchie. Voilà, donc, fin 2023, effectivement...
La réalité, c'est que l'année prochaine, entre l'arrêt d'Ariane 5 et l'attente d'Ariane 6, l'Europe n'aura plus de lanceurs. Pour envoyer ces gros satellites, on va être obligé de passer par SpaceX. Quand on parle de souveraineté, Thierry Breton doit s'étrangler et vous-même, vous n'allez peut-être pas l'avouer à un micro, mais.
En 2023,
c'est quand même un peu humiliant.
On va avoir effectivement un problème de capacité qui fait que, notamment, notre client OneWeb, qui était prévu, qu'on avait prévu de lancer à la fois sur des lanceurs Soyuz. Parce qu'on a été impacté aussi par la crise
ukrainienne.
Donc, Soyuz, ça s'est arrêté.
Il n'y a plus de Soyuz.
Évidemment, il n'y a plus de Soyuz. Et puis, les retards d'Ariane 6 font que, effectivement, un certain nombre de clients, et notamment OneWeb, s'est retourné vers SpaceX. Ariane 6 sera un succès commercial.
Bon.
J'en veux pour preuve la décision qui a été prise par Amazon.
Oui, bien sûr.
De confier à Ariane 6 le lancement de 18 satellites, de 18 satellites de la constellation. 18 lancements, pardon. 18 lancements pour la constellation Kuiper. Donc ça, c'est un succès commercial significatif.
Bien sûr.
Et ça augure d'une belle carrière commerciale pour Ariane 6.
Il n'y a plus qu'à la lancer. Il nous reste une minute, Olivier Andriès. On arrive déjà au terme de cette interview. Sur le SCAF, en revanche, là, ça y est, enfin, on y est. Parce qu'on le sait, il y a des tensions de longue date entre Airbus et Dassault sur le partage des rôles. Je vous pose la question parce que vous serez le motoriste de l'avion. Ça, pour le coup, c'est réglé. Vous confirmez, ça y est, que maintenant, tout le monde est d'accord ?
Alors, sur le pilier moteur, vous savez, nous avons
accord
avec notre partenaire motoriste allemand depuis fin 2019.
Ouais.
Et donc, effectivement, comme vous, je comprends que...
Non, mais vous avez de meilleures informations que moi.
Je comprends que les deux avionneurs, donc Dassault et Airbus, sont... bien convergé ces dernières semaines. Ces dernières semaines sont proches d'un accord, à ce que je comprends. Maintenant, proche d'un accord, on n'y est pas encore. Donc j'espère, et j'appelle de mes voeux, cet accord pour qu'on puisse enfin annoncer le lancement du SCAF.
Ce fameux SCAF et cette défense en commun européenne et avant tout franco-allemande. Merci, merci beaucoup Olivier Andriès d'avoir répondu à nos questions ce soir, d'avoir été
invité
de la grande interview de BFM Business. Votre interview est à retrouver d'ores et déjà en ligne, en replay, sur notre site internet, sur les réseaux sociaux, en podcast. Et puis vous flashez le QR code si vous nous regardez à la télévision et l'interview là aussi sera disponible. Dans un instant, toute l'actu de la tech en live avec François Sorel Tech & Co. Et demain, je recevrai à 19h30 Christophe Périlla, le directeur général de Valeo. On va évidemment continuer à parler d'industrie lourde et cette fois-ci d'automobile. Mais enfin, d'aéronautique à l'automobile, il n'y a qu'un pas. À demain, très bonne soirée sur BFM Business.
Good evening business. La grande interview.